Je me tourne vers vous, Marie-Pierre Jeunecamp. Vous étiez hier soir à Nyon, au Phare, le Festival des Arts Vivants, où vous avez vu un spectacle qui s'appelle « Des productions ». C'est une pièce de la chorégraphe Perrine Valli qui nous emmène au Japon avec deux danseurs que la chorégraphe a rencontrés à Tokyo et qu'elle a fait venir en Suisse. Il faut dire que la danseuse y a passé plusieurs mois et des mois à vraiment observer cette société japonaise.
Donc c'est un spectacle beaucoup plus calme que la peinture que vient de décrire Nicolas. C'est un spectacle, en fait, on pourrait qualifier de minimal. Hein. C'est ces fameux spectacles de danse où on danse très peu. La danse est tout de même présente, on en parlera tout à l'heure. Elle est présente un peu comme une gestuelle, une signalétique, plus que comme un déploiement de mouvement traditionnel. Et en effet, Perrine Valli donne la parole à Kazuma Glenn Motomura, qui est un garçon, et à Airi Suzuki, qui est une fille, en deux volets. Et chacun raconte comment il a rencontré la chorégraphe franco-suisse au cours de ses trois mois de résidence à Tokyo.
Et qu'est-ce que ça donne? Quel est l'intérêt de l'un envers l'autre?
Alors en fait, bon, il s'agit quand même de danseurs qu'elle a employés pour une pièce, et ce qui est très frappant, c'est la différence culturelle qui très vite apparaissent aux yeux de chacun. C'est-à-dire par exemple qu'au Japon, un danseur doit payer pour danser, alors qu'ici en Suisse, en Occident, en général, les danseurs sont naturellement payés.
C'est un métier dur, mais enfin qui est reconnu, voilà, la place du danseur est
reconnue. Exactement, l'État prend en charge la création culturelle, alors que au Japon, le danseur, donc étant donné que justement l'État ne subventionne pas la danse, le chorégraphe demande à ses danseurs de vendre un certain nombre de tickets. Et s'ils n'arrivent pas à les vendre, ils doivent, eux, rembourser les invendus. Pour donc danser, exercer son métier, un danseur doit donc sortir de l'argent de sa poche, bien souvent. Et ce n'est pas du tout donc une culture, entre guillemets, enfin, soutenue par l'État. Ça, c'est une première grande différence.
Alors, sur la place du danseur, est-ce qu'il y a d'autres différences culturelles qui apparaissent dans le spectacle?
Oui, tout le spectacle consiste finalement à décliner ces différences. Par exemple, l'enfant, son plus jeune âge, est appelé à une grande réserve, ce qu'on appelle le gaman. Donc ça, il décrit très bien le danseur. Un enfant qui commence à pleurer, on dit instantanément gaman, et ça veut dire tu refoules tes émotions et tu grandis en fait avec cette espèce de conscience de constance, en tout cas, par rapport à la bienséance. Quoi. Il s'agit de vraiment garder pour soi ses déceptions, ses frustrations. Ce qui d'ailleurs, d'après Perrine, donne une très très grande floraison dans l'imaginaire. Parce que toute cette émotion refoulée donne ces mondes virtuels dans lesquels les Japonais excellent. On pense naturellement à toute la production cinématographique ou des dessins animés. Et puis l'érotisme aussi peut être très très florissant au Japon, parce que d'abord le shintoïsme ne condamne pas le péché de chair comme c'est le cas de nos religions judéo-chrétiennes. Mais en plus, il y a justement ce refoulement d'un côté et de l'autre côté cette explosion de l'imaginaire qui se déploie dans toutes ses formes. Donc voilà, ça c'est par exemple un aspect qui est évoqué. Et on passe comme ça, en fait, le spectacle, que ce soit du côté du garçon ou de la jeune fille, à considérer ces différences. Il y a par exemple, oui, un exemple très très joli du côté de la séduction. Au Japon, une femme, pour séduire, doit adopter l'attitude qu'on appelle kawaii. Ça veut dire cute, en fait,
mignon,
en anglais,
mignon. Mignon.
Donc là, elle, par exemple, elle fait, cette jeune danseuse accomplit une démarche, la démarche kawaii, c'est une démarche les pieds en dedans, trottinante. Et elle se met sur la table et elle fait mine de se faire des couettes. Et ça, c'est la position la plus, l'attitude la plus sexy au Japon. Pour cette attitude-là, les garçons craquent complètement. Et ensuite, droit derrière, elle accomplit la démarche sexy de l'Occident, c'est-à-dire elle déploie ses cheveux, elle pose totalement sa démarche, enfin, telle qu'on peut l'imaginer d'une femme langoureuse chez nous. Et c'est une autre personne. C'est juste subjugant de voir à quel point elle peut changer de corporalité à travers ces deux attitudes. Et elle-même dit j'étais totalement frappée de découvrir à quel point un même corps peut déployer un tout autre imaginaire. Et nous, on l'a sous nos yeux, donc c'est vraiment une traversée comme ça, très, très sensible et très sincère.
Et très intéressante, j'imagine, de voir ces différences culturelles. On rappelle qu'une des thématiques du phare cette année, c'est les questions autour de l'identité. Vous avez dit tout à l'heure, Marie-Pierre Jeunetan, qu'il y avait relativement peu de danse. Donc ces deux danseurs, hommes et femmes japonais, sont postés devant le public, racontent des propos en anglais qui sont, je crois,
surtitrés
derrière, avec un écran. Des mouvements malgré tout.
Alors justement, il y a une signalétique gestuelle. Par exemple, quand il s'agit de décoller en avion, il y a vraiment le geste qui est fait, et toute la signalétique est faite de façon très minutieuse, parce que Perrine Valli, un de ses actes de recherche, c'est vraiment développer une gestuelle extrêmement précise, pointue, par moments même tranchante. Ça, elle l'a fait donc depuis 5-6 ans qu'elle crée pour elle, et donc elle l'a imprimé sur ses danseurs. Et à un moment donné, justement, le danseur dit il ne s'agit pas simplement de lever le bras bras à l'équerre. Il faut lever le bras à l'équerre avec vraiment la ligne totalement, enfin, respectée entre la main et le bras, et le pouce qui doit aussi être dans l'alignement. Et lui, il n'avait pas du tout l'habitude de ça, parce que la danse minimale est très peu connue au Japon. On a plutôt tendance à exercer une danse explosive et pleine de mouvements. Et du coup, il a dû apprendre justement à retenir ses mouvements et vraiment les apprêter à la mode Perrine Valli. Donc pour lui, c'était vraiment un enseignement aussi. Et c'est assez touchant de voir ces différences. Et par ailleurs, il y a quand même des solos. C'est-à-dire qu'à un moment donné, le danseur se blesse, donc il est réduit à faire un solo. Il se blesse au genou, donc il est réduit à faire un solo sur le dos. Et il est torse nu sur le dos et il fait un solo avec ses bras qui est absolument magnifique et très expressif. Et la jeune danseuse raconte en fait une plaie d'amour, quoi, un manque d'amour, et elle le fait sur une table. La table est aussi un élément récurrent chez Perrine Valli. Elle exprime son manque d'amour sur ces tables avec un solo à la fois langoureux, mais aussi qui transmet cette détresse. Et c'est aussi très beau. Donc il y a deux vrais moments de danse. Sinon, il y a cette signalétique à travers des mouvements qu'on pourrait appeler des codes, quoi.
Dernière question, Marie-Pierre Jeunecamp, vous connaissez bien le travail de cette chorégraphe, Perrine Valli. Est-ce que celui-ci, qu'on peut découvrir au Phare avec ses deux danseurs japonais, est emblématique de ce qu'elle fait d'habitude? Ça ressemble un peu à son travail?
Oui, alors il y a ces deux aspects justement, l'aspect de la signalétique, de la gestuelle extrêmement découpée, orthogonale, dans les noirs et blancs, elle n'a jamais utilisé la couleur sur scène, donc en effet, elle a une doxa comme ça, une assez rigoureuse, mais qu'elle applique avec beaucoup de, je dirais, de naturel, hein. C'est pas du tout quelqu'un qui est austère, elle parle volontiers de ça, en tout cas, elle se soumet à un petit peu à ces dogmes qu'elle s'est fixés, mais voilà, elle pourrait évoluer, elle est jeune, elle a 30 ans. Et puis par ailleurs, alors il y a une thématique qui est récurrente et qu'elle aborde un petit peu dans ce spectacle, c'est la place de la femme et dans l'intimité et dans la société. C'est vraiment une thématique récurrente. Elle a fait un spectacle sur la prostitution, sur la création du monde avec Adam et Ève et Lilith, qu'elle lève maléfique, si on veut. Et voilà, cette thématique, naturellement, on la retrouve lorsque la femme, justement, décrit ses modes de séduction différents. Et donc, oui, c'est un spectacle qui lui ressemble sans qu'elle y soit, puisqu'elle a en fait éprouvé le besoin de ne plus danser, puisqu'elle s'est arrêtée pendant 3 mois à observer le Japon. Quand elle est rentrée, elle a une sorte de désarroi d'interprétation, alors que c'est une très bonne interprète de danse. Et elle a préféré en fait diriger ses danseurs comédiens plutôt que danser sans avoir vraiment ce feu sacré. Donc voilà, c'est peut-être un tournant qui s'engage, mais en tout cas, on la retrouve à travers ses danseurs.
Et c'est un spectacle que vous avez trouvé très touchant et très convaincant.
Oui,
merci beaucoup, Marie-Pierre Jeunecamp. Vous nous parliez de Déproduction que vous avez vu hier soir au Phare, au Festival des Arts Vivants de Nyon. C'est un festival qui continue jusqu'au 20 août avec d'autres rendez-vous dont on parlera, comme les spectacles de François Gremaud, Raymond Roque et Massimo Fourlane, dont on parlera la semaine prochaine.